Allô?
Bonjour Alexis David Marie, comment vas-tu?
Salut David, ça va? Écoute, hein, on vit en mode confiné avec les enfants en bas âge et tout ça. C'est pas toujours très simple, mais on y arrive.
Eh ben merci de m'accueillir et de prendre du temps pour me répondre. Donc je suis David Malmans, l'éditeur des éditions aux Forges de Vulcain. Nous sommes le 14 avril 2020, c'est dans l'après-midi. Et je profite du confinement pour appeler les auteurs et autrices des Forges pour qu'ils nous parlent de leurs lectures. Alors ça peut être les lectures passées, les lectures formatrices ou les lectures courantes ou les lectures de confinement même. Donc Alexis, tu es partant pour cet exercice?
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Et alors, je ne prépare jamais avec les auteurs. Alors, je prépare moi, mais je ne mets pas les auteurs dans la boucle de la préparation. Et la question que je vais te poser est peut-être un peu déstabilisante, c'est que je pense que souvent, les bons écrivains, c'est des gens qui écrivent sur ce qu'ils ont en propre. Et je me suis rendu compte qu'il y a une discussion que toi et moi, on n'a jamais eue, c'est qu'en fait, tu es initialement historien de formation. Et je voulais savoir s'il y a des textes en histoire qui t'ont particulièrement marqué, peut-être des périodes, peut-être un livre sur un sujet, ou peut-être un auteur, ou peut-être une façon d'écrire l'histoire. Voilà, c'est. Tu t'y attendais pas à cette question,
Non, non,
hein?
non, pas forcément. Ça me ramène loin. Ça me ramène au moment de mes études. Est-ce qu'il y a des livres d'histoire qui m'ont beaucoup marqué? Oui, certainement. Mais c'est vrai que c'est plus chez moi. C'était plus par des périodes en fait. Et pour ma part, c'était le Moyen Âge que j'ai découvert lors de mes études à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où la formation était vraiment d'un niveau exceptionnel. C'est-à-dire que l'historiographie qui était pratiquée là-bas à l'université Paris 1 était vraiment tout à fait en pointe dans la connexion avec les sciences sociales en général, la sociologie et tout ça. Et c'est ça qui m'a en fait particulièrement marqué, avec notamment un maître de conférence qui était Joseph Morcel, qui travaille toujours là-bas, qui a écrit un livre qui s'appelle L'aristocratie médiévale, qui est un livre très difficile à lire, pas toujours très très bien écrit d'ailleurs du point de vue style, il est allé un peu vite, mais du point de vue de la réflexion et de l'outillage conceptuel, qui est un livre tout à fait exceptionnel, qui justement utilise la sociologie, les sciences sociales au service de l'histoire médiévale. Donc voilà ce que je pourrais citer, voilà ce qui me vient à l'esprit quand tu m'évoques ça, quand tu me poses cette
Ben,
question.
c'était tout à fait. Non, mais en plus, j'y réfléchis ces jours-ci parce que au Forge, il y a tout un tropisme médiéval. Parce que le cofondateur des Forges, Joël Chandelier, est maître de conférences en histoire médiévale. Marie-Fleurel Becker, elle a écrit un roman inspiré de l'histoire médiévale. Alors, toi, tu n'as pas écrit de roman historique, même si effectivement ton tout premier roman, Prométhée Vagabond, est ancré dans un arrière-fond historique assez important. Est-ce que toi tu lis du roman d'histoire ou non? Du roman historique?
Alors pour ma part, je n'en lis pas, mais en même temps, la notion de roman historique, c'est un peu une notion piège finalement, parce que moi j'étais confronté à ça quand justement je travaillais sur le projet de Prométhée Vagabond. C'est qu'à la fois c'est un petit peu un des sous-genres de la littérature, si on peut parler de sous-genres, hein. Par exemple, il y a des rayons dans les librairies qui sont consacrés à ça, etc. Et puis aussi, ce qu'on peut voir, c'est que parfois, il peut y avoir des romans de littérature générale qui se trouvent se situer dans le passé et dans l'histoire. Donc finalement, quand j'ai écrit Prométhée Vagabond, moi, je m'inscrivais plutôt dans cette démarche-là, c'est-à-dire de faire un roman de littérature générale, mais qui se passerait au XVIIe siècle. Donc, je ne l'ai pas écrit dans l'idée de faire du roman historique, même si ça m'amusait et ça me sécurisait, en fait, puisque c'était mon premier roman, de passer, ça m'amusait, ça me sécurisait de passer par une documentation très, 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 très rigoureuse, en fait. Mais c'était presque un jeu, en quelque sorte. Je me rappelle avoir, par exemple, recherché des articles universitaires pour avoir des notions du prix des choses. puisqu'il y avait un aspect picaresque, les personnages se baladaient, ils devaient acheter des choses très, très élémentaires. Et j'avais fini par débusquer des articles qui faisaient un petit peu le point de sur combien pouvait valoir telle ou telle chose pour ma période. Donc il y avait un aspect de reconstitution historique rigoureuse, mais pour autant, c'était pas forcément dans l'esprit de faire du roman historique, comme on en voit beaucoup avec les polars historiques ou ce genre de choses-là. Voilà.
Et alors, pour avancer un peu, ton deuxième roman en forge, c'était Martyr français, qui est un roman contemporain, mais sur lequel il y a un niveau d'enquête intellectuelle, sociale, politique de ta part qui est extrêmement abouti. Est-ce que tu es un lecteur d'essais particulièrement, d'essais documentés, pour ainsi dire, ou de documents contemporains? Et si tu avais des lectures à recommander de ce côté-là, qu'est-ce que tu me recommanderais?
Alors là, effectivement, pour le deuxième projet, là, où il y avait aussi l'idée, finalement, de découvrir le rapport au monde qui se joue dans une sphère assez lointaine et assez exotique par rapport à mes horizons de pensée. Donc, c'était le cas avec le XVIIe siècle, et c'est le cas aussi avec un mouvement identitaire. Et donc, effectivement, pour écrire ce roman d'enquête, mais là, plus d'actualité sur la mouvance identitaire, j'ai lu énormément d'essais, effectivement. Alors tous ne m'ont pas beaucoup marqué, donc je lisais les essais qui marquent cette mouvance, y compris avec des auteurs qui ne sont pas du tout marqués à l'extrême droite, comme Christophe Guillouis, par exemple. Christophe Guillouis, c'est un auteur qui est très très important pour la mouvance identitaire, même si lui-même ne s'étiquette pas du tout de cette façon-là ou quoi. Et donc j'ai lu des essais qui nourrissent la pensée identitaire, mais aussi à l'inverse, puisque je voulais me mettre en capacité d'armer une discussion, j'ai lu des essais sur la gauche actuelle, ses perspectives, etc. Et alors du coup, là, j'ai pris dans ma bibliothèque un livre qui m'avait pas mal marqué à cet égard, qui est un livre de vulgarisation, mais que j'ai trouvé vraiment très très bien fait, très très utile, très intéressant. Et pour répondre à cette question que tu me poses, c'est ce livre-là qui me vient à l'esprit. Et ce livre, ça s'appelle « Hémisphère gauche, une cartographie des nouvelles pensées critiques ». Voilà, et c'est écrit par un auteur qui s'appelle Razmig Kechayan. Voilà, Kechayan pour son nom. Et c'est une très très bonne synthèse, très aboutie des nouvelles perspectives de ce courant de pensée.
D'accord. Voilà. Tu as répondu sur l'histoire, tu as répondu sur les essais, et maintenant on va aller peut-être plus vers tes lectures courantes. Peut-être est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as lu et que tu recommanderais peut-être sur la dernière année, par exemple?
Alors, sur la dernière année, j'ai lu beaucoup de choses, évidemment, en rapport avec le projet actuel dans lequel je suis, qui utilise une matière autobiographique, puisque finalement, c'est ma période collège que je raconte dans ce prochain projet. Et donc je lis beaucoup de choses en rapport avec ça. Alors j'ai lu le prix Goncourt de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. J'en étais vraiment abasourdi et même intimidé. Ça compliquait presque la remise en marche du travail d'écriture, tellement j'étais presque écrasé par les qualités de cet ouvrage, la qualité de l'évocation, quoi, la force de l'évocation. C'est vraiment en un seul mot, pour moi, la force de ce roman tient à ça, à la puissance d'évocation, alors même que du point de vue de la conceptualisation de la littérature qu'il peut y avoir derrière, c'est très simple, mais c'est pas du tout une critique, au contraire, hein. Mais il n'y a pas du tout, à mon sens, une pensée très 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 novatrice sur ce qu'est la littérature, ce qu'elle doit devenir, etc. Peut-être tant mieux, mais par contre, la force de l'évocation est tout à fait exceptionnelle. La comparaison qui pourrait me venir comme ça avec la peinture, ça serait Caillebotte, par exemple. Voilà, ça me faisait penser à ça, mais d'une façon vraiment, vraiment exceptionnelle. Et donc, il y a eu beaucoup d'autres lectures que j'ai pu faire par rapport à mon projet actuel. Donc, bon, ça a pu me conduire du côté de Delphine de Vigan avec son Rien ne s'oppose à la nuit, qui est un livre d'une très très grande qualité avec lequel je ne suis pas trop accroché. Pour des raisons que j'aurais du mal à éclaircir, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu plus de mal avec ce livre. Donc j'ai aussi lu Corniche Kennedy de Maëlys de Kerangal, qui est une autrice que j'aime énormément, dont j'admire vraiment le travail. Après ce roman-là, Corniche Kennedy m'a pas beaucoup marqué par rapport à d'autres livres de cette autrice, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu côtoyer. Et là, en ce moment, je suis dans Knausgard, plusieurs volumes de sa série Mon Combat.
Ah mais oui. Alors non, mais attends, mais ça parle-moi, parce que c'est quelque chose. J'ai lu énormément d'articles dessus. Mais je n'ai toujours pas compris l'engouement, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un engouement international. C'est-à-dire que c'est un best-seller international. Chaque fois que je vais dans une foire du livre à l'étranger, il y a des piles et des piles de ce livre dans toutes les langues du monde, j'ai l'impression.
Oui, effectivement, c'est un succès international. Moi, j'en ai entendu, j'ai découvert par Le Monde. Donc, ils expliquaient dans des articles du Monde que, voilà, c'était un auteur qui avait voulu, faire toute la lumière sur sa vie, comme ça, dans une série autobiographique, qui est devenue Mon Combat. Bon. Et, en me confrontant à cette œuvre, donc, qui est en 4 volumes aux éditions Folio, j'avais commencé par le premier, j'avais commencé par celui qui s'appelle Jeune homme, puisque justement ça résonnait avec mon projet à moi, puisque ça porte sur son adolescence. Et j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. J'ai été tout de suite happé par son écriture. Donc ça m'étonne pas du tout, cet engouement international ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai moi-même été complètement happé par ça. C'est une écriture très simple, avec un style qui est pas énormément travaillé, voilà. En fait, à mon avis, la force de ce livre tient à la sensibilité qu'il met à ce qu'il décrit, à la vérité qu'il y met de façon très très simple. Et dans les critiques que j'ai pu lire, il y avait souvent la comparaison avec Proust. Peut-être, en effet, mais alors du coup, un Proust qui ne parlerait pas du tout de conversation mondaine ou d'art, comme le fait Proust, mais qui raconte une vie qui, avant d'être l'écrivain qu'il est devenu, était une vie très très ordinaire finalement, hein. Une vie très ordinaire. Donc il fait la lumière comme ça sur des aspects, sur des flux de conscience très très ordinaires, des conversations en voiture, les silences, le sens des silences qu'on peut rencontrer comme ça dans une simple conversation en voiture. Et il reconstitue ça d'une façon tout à fait exceptionnelle. Il y a une phrase notamment, alors là, parce que du coup, je suis reparti du premier volume, La mort d'un père. Il y a une phrase qui me semblait vraiment tout à fait révélatrice de son art, où il parle des moments qui ont suivi la mort de son père, donc il retrouve son frère, etc. Et donc ils discutent en voiture, et à un moment il dit, bon voilà, on s'est tu, le silence s'est fait, et au départ ça a été un silence grave, et quelques secondes plus tard c'était simplement un silence normal. Enfin, la phrase est bien meilleure que ça, mais j'ai trouvé cette phrase sur le silence et l'évolution de son sens comme ça tout à fait révélatrice de l'art de Knausgard. C'est-à-dire que un peu comme Joyce, il y a cette réflexion sur le flux de conscience, mais d'une façon beaucoup plus facile à appréhender et beaucoup plus facilement communiquée, en fait, je trouve, chez Knausgard. Voilà, donc ça, c'est une lecture qui me marque énormément en ce moment et dans laquelle je suis pleinement.
Attends, moi, j'ai peut-être une recommandation de lecture, parce que ce que tu me... Tu sais, ça a fait penser à un livre, mais c'est un peu lointain, mais c'est un roman, enfin une sorte de roman autobiographique, je crois, je suis fatigué, le réalisateur suédois, Bergman, qui s'appelle L'Aterna Magica, qui, dans mon souvenir, c'était la vie de ses parents, ou je confonds peut-être avec je confonds deux textes, mais c'est vrai que ça m'avait sidéré comment, avec un style très très simple, qui est dans la représentation pure, c'est-à-dire la description, on arrive à une sorte de justesse d'évocation qui peut être complètement sidérante. Donc effectivement, je vois ce que tu peux vouloir dire.
Et c'est intéressant sur la question de comment tient un livre. Qu'est-ce qui fait qu'on tourne la page? Qu'est-ce qui fait que je lis aussi facilement que beaucoup d'autres lecteurs, visiblement dans le monde entier, le lisent aussi facilement? Ça tient pas du tout à l'intrigue. Pas du tout. C'est pas du tout comme Stephen King que j'adore, par exemple, où là on est complètement happé, mais parce que l'intrigue est souvent très bien ficelée. C'est pas non plus, n'en déplaise à Céline qui pensait que c'était la clé ultime, c'est pas non plus du tout sur le style. Puisque il y a du style, mais c'est un style très simple, encore une fois. C'est vraiment sur cette question d'une vérité intime qui est rarement documentée de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il parle de choses dont normalement on ne parle pas. Non pas parce qu'on en aurait honte ou quoi que ce soit, mais simplement parce que ça se passe dans le flot de conscience, comme ça, on ne prend pas forcément la peine d'en parler. Et lui met la lumière là-dessus, et du coup, on se sent tout de suite concerné, finalement. Et à mon sens, c'est là-dessus que tient ce livre.
C'est pas particulièrement son style, c'est ça. C'est vraiment la justesse de l'évocation de quelque chose qui est difficile à capter, quoi.
Voilà, qui est difficile à capter et qui tournerait autour enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit, là, de la notion de flux de conscience. Ce qui nous passe par l'esprit, comme ça, dans une simple journée ordinaire.
Alors moi, je suis très, je suis curieux parce que c'était pas l'impression que j'avais de cette œuvre. Alors c'est une œuvre que je n'ai pas lue, mais c'est vrai que quand toi tu me parles flux de conscience comme comparaison, moi j'ai des souvenirs de textes de Wolf ou de tout ce qui est stream of consciousness, et j'avais toujours trouvé que c'était des textes finalement très poétiques, mais finalement pas très accessibles. Parce que ça déconstruisait la phrase, ça cassait la phrase, alors qu'en fait j'avais l'impression que mon combat justement c'était quelque chose qui était très transparent stylistiquement.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui rend la chose plus communicable peut-être. Effectivement, il n'y a pas ce côté, je parlais de Joyce tout à l'heure, il n'y a pas du tout ce côté un peu difficile d'accès, oui.
Oui, t'es quand même un gros lecteur de littérature contemporaine, en fait.
Oui, alors il y a autre chose qui m'a... J'anticipe peut-être une question, oui. Mais peut-être un peu trop vite.
Vas-y.
Une autre lecture qui m'a beaucoup marqué là dans ces derniers mois, du point de vue littérature contemporaine, justement, puisque tu me parlais de ça, c'est donc le volume 2 des microfictions de Régis Geoffrey, oui. Qui du coup voilà, est toujours une lecture que je... Enfin, les microfictions, volume 1 et 2, c'est toujours une lecture que je fais avec énormément de plaisir. Alors là, complètement indépendamment de tout projet d'écriture en cours. Là, c'est vraiment pour se ressourcer stylistiquement, quoi. C'est vraiment le plaisir de la poésie, quoi. C'est un plaisir poétique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'une cure de jouvence poétique. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la force du style est telle que, voilà, c'est revigorant. Donc il y a vraiment ce côté-là, dans ce même type de lecture, même si cette fois-ci c'est pas contemporain, de lecture qu'on peut faire simplement pour le plaisir poétique pur, des lectures à picorer comme ça, il y a aussi sur ma table de chevet Pessoa, bien sûr, le livre de l'intranquillité. Oui. Qui est tout à fait, enfin pour moi c'est dans mon esprit de lecteur, c'est rangé dans le même rayon que, enfin, Régis Geoffrey et ses microfictions sont avec Pessoa et son livre de l'intranquillité, c'est-à-dire des livres où je viens picorer pour le plaisir pur de la poésie et du style.
Oui, ça me donne très envie de lire Geoffrey. Alors moi j'ai un petit biais, c'est que j'ai toujours beaucoup de mal à lire des auteurs contemporains qui sont extrêmement légitimé, validé, sur-recommandé, mais parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a une forme de corruption dans la prescription des livres, parce que peut-être parfois j'ai été déçu par des livres qui étaient encensés, qui m'ont déçu, mais je me rends compte que je reviens à des lectures contemporaines, parce que parfois je tombe sur un libraire, une libraire ou un auteur qui va me parler d'un auteur contemporain que mais personnellement, c'est-à-dire que vraiment, comme toi tu viens d'en parler de Geoffrey, mais moi par exemple j'ai découvert l'été dernier, et je trouve ça fantastique, Charles Juillet, qui est un auteur que je n'avais jamais lu parce que j'avais l'impression que ça a été une grande lecture. Donc écoute, peut-être que Geoffrey ça sera une de mes grandes lectures de l'année qui vient, mais je note. Mais alors continue, parce que là pour l'instant tu m'as convaincu sur toutes les lectures, y compris sur le livre sur l'aristocratie au Moyen-Âge. Donc
L'aristocratie médiévale de Joseph Marcel, mais c'est pas, je te préviens, ce n'est pas plaisant à lire, c'est très intéressant, mais c'est pas forcément aussi plaisant à lire que du Kantorowicz ou des auteurs classique du Moyen Âge. Mais sinon, pour revenir sur ces auteurs de littérature contemporaine qu'on peut marquer, et il y aurait aussi Antoine Volodine dont j'aimerais parler, parce que j'ai été très marqué par son Terminus radieux, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, qui m'avait été recommandé par une collègue qui avait travaillé sur lui au moment de ses études universitaires, une jeune collègue qui vient juste de rentrer dans le métier, qui avait même rencontré Antoine Volodine et qui m'avait donc conseillé Terminus radieux, et ça a été effectivement un grand choc littéraire. Je ne m'attendais à rien du tout. J'avais croisé des articles de critiques sur lui dans Le Monde, vite fait, Le Chaman de la littérature française. Enfin, ça m'était passé un petit peu au-dessus de la tête. Mais là, qu'une collègue me le recommande, bon, j'y suis allé et j'ai trouvé ça fantastique. Et ce qui est amusant dans le cas de Terminus radieux, c'est que je savais absolument pas à quoi m'attendre. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce style? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai mis peut-être, je sais pas, une cinquantaine de pages à comprendre l'aspect comique. Même si c'est pas du tout un livre comique. Oui. Mais disons qu'il y a une dimension comique qui est bien là, à laquelle je suis très réceptif et que je trouvais formidable. Donc par exemple, alors je me rappelle plus des noms des personnages, mais je me rappelle qu'il marche comme ça dans une espèce de Sibérie post-apocalyptique, comme toujours chez Volodine, c'est très souvent post-apocalyptique. Et donc il marche là-dedans, et puis donc il rencontre des herbes, des herbes sauvages. Et Volodine détaille, mais très longuement, les noms de ces herbes sauvages qu'il croise. Donc quand on en est au dixième nom d'herbes sauvages, on y croit encore, on n'a pas encore compris que c'était comique en quelque sorte, mais quand on arrive au trentième nom d'herbes sauvages, oui, on dit, ah oui, il plaisante, il m'a eu, ok, je comprends. Et c'est jubilatoire, c'est très plaisant, et surtout, évidemment, ça n'arrache pas des rires, peut-être pas même des sourires, mais c'est un plaisir poétique, une jubilation poétique, là encore. Et c'est, voilà, c'est tout à fait jubilatoire. Tout à fait jubilatoire, et un comique très subtil, très, très, très appréciable, et aussi, surtout, et c'est ça qui m'intéressait, moi, dans l'œuvre de cet auteur, Volodine, que je commence tout juste à découvrir, puisque je n'ai lu que Terminus radieux. J'ai vu qu'il en avait fait paraître un nouveau, là, très dernièrement, sous un autre pseudonyme, puisqu'il utilise, à la façon de Pessoa, toute une série de pseudonymes qui ont chacun un rôle bien précis dans son œuvre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement construit et d'extrêmement complexe, dont j'ai absolument pas la clé. Mais ce qui m'a énormément marqué en tant que lecteur dans Volodine, c'est comment justement il ne se place absolument pas dans une optique de consommation. C'est-à-dire que forcément, quand on écrit, on est obligé à un moment ou à un autre de faire place au désir du lecteur, quoi. Et finalement, souvent, les livres de grande consommation sont ceux qui vont satisfaire de la façon la plus directe possible, la plus digeste possible aussi, et de la façon la plus consensuelle aussi, les besoins des lecteurs en termes de plaisir de lecture, etc. Et ce qui est fort avec, ce qui me semble très intéressant avec Volodine, c'est qu'il nous entraîne, et donc il nous satisfait quand même en tant que lecteur, par la poésie de son univers, mais quand même il y a une sorte de, je ne saurais pas quelle image utiliser, mais il nous emmène quand même dans quelque chose qui est totalement à lui, qui ne lui préexiste pas. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme un auteur de mauvais polar, par exemple, qui se placerait dans un genre particulier et essaye, une fois inscrit dans ce genre, de satisfaire son lecteur et les besoins de son lecteur. Lui, il emmène son lecteur dans un univers qui n'existait pas avant lui et sans lui, et le lecteur s'y trouve pleinement bien et s'y épanouit. C'est ça que je trouve absolument, absolument incroyable. Et pour moi, c'est un des enjeux justement de la littérature que j'aime, en tout cas pour ma part, c'est réussir à amener comme ça le lecteur dans un univers qu'il ne soupçonnerait pas, qui ne tient sur rien, qui ne tient sur aucun fondement, mais dans lequel on peut s'épanouir grâce au style de l'auteur, quoi.
Mais alors, là, pour le coup, Terminus Radio de Volodine, je l'ai lu et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est le seul Volodine que j'ai lu sur la recommandation de la librairie Caribe à Paris, qui, c'est des grands, grands lecteurs et lectrices de Volodine. Et c'est vrai que, alors, un point auquel j'avais pas pensé, mais qui est une de mes réflexions ces jours-ci, c'est que je pense que parfois, actuellement, on fait une trop grosse pression sur les romanciers ou romancières, en disant que dès le début, faut qu'il y ait de l'action, de la simplicité, qu'on sache où on est, tout ça. Et en fait, ce critère de simplicité, c'est un critère auquel 99% de la littérature du passé ne survivrait pas, en fait. Et qu'en fait, je ne veux pas dire que tout ce qui est beau dans la vie est toujours un peu difficile, mais je ne suis pas loin de le penser. C'est-à-dire que si on réfléchit à toutes nos activités, la satisfaction vient très rarement de la simplicité, elle vient de d'autres choses. Et c'est vrai que Volodine n'est pas un auteur simple à proprement parler. Parfois, ça se mérite. Alors, c'est pas non plus illisible, hein, mais ça se mérite. Mais par contre, la jouissance qu'on en tire est très très grande. Donc, oui, effectivement, une grande lecture.
Oui, et ce que tu disais m'évoque aussi quelque chose sur Volodine. Alors, je sais pas si lui serait d'accord, parce que visiblement, c'est quelqu'un qui a une image très, très aboutie de son œuvre, etc. Mais pour moi, de ce que j'ai pu en voir avec Terminus Radieux, Volodine est quelqu'un qui rappelle, et là, c'est aussi en tant qu'auteur que je dis ça, que dans la littérature, il n'y a justement pas de règles. Il n'y a pas du tout de règles. Et c'est pour ça que ça m'agace toujours un petit peu quand je vois des auteurs contemporains qui peuvent avoir tendance à dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors que, en fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a vraiment pas de règles, quoi. La seule règle, c'est que le livre tienne debout, que un lecteur ou des lecteurs aient envie de tourner la page. C'est la seule règle qui peut exister, quoi. Et pour moi, Terminus Radio, ça illustrerait bien cette réalité-là de la littérature.
Oui, en fait, ce que tu dis, c'est une reformulation sans doute à ton insu, mais une reformulation d'une phrase de Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, donc, est romancière américaine dont les forces ont publié plusieurs essais, à de très nombreuses reprises, elle a dit que d'après elle, effectivement, il n'y a pas de règles en art, il n'y a pas de règles en littérature, sauf cette règle, c'est que quand une histoire commence, elle donne ses propres règles et elle doit s'y tenir. Et c'est peut-être ça, tenir debout. C'est-à-dire,
oui, je souscris totalement.
C'est, on donne, et c'est vrai qu'en repensant à tes deux romans, chacun a des règles très strictes. Effectivement, tu es un auteur de règles, mais qui ne sont pas des règles générales qui seraient extérieures à l'œuvre, c'est des règles internes aux œuvres. C'est-à-dire avec tes deux romans ont une sorte de logique interne très très forte. Et finalement, ça ne m'étonne pas que tu choisisses aussi parmi les auteurs que tu viens de citer, tu ne viens de citer que des auteurs qui ont des très fortes règles. Et d'ailleurs, quand tu as émis des réserves sur certains auteurs, certains textes d'auteurs que tu apprécies, en fait, c'est des auteurs qui sont justement avec des règles internes moins fortes. Mais c'est sûr que l'impression que donne Volodine, l'impression que donne Mon Combat, c'est d'être des auteurs ou des œuvres avec des logiques internes qui sont extrêmement fortes.
Oui, sans doute, c'est vrai.
Chers camarades, on s'achemine vers la fin de notre conversation téléphonique. Est-ce que tu as une dernière recommandation de lecture pour les lecteurs et les lectrices des Forges ?
Une dernière recommandation de lecture, non ?
Devant ta bibliothèque, là ?
Oui, mais je viens de tomber sur Henri Godard, Poétique de Céline. Parce que ça m'a passionné là dernièrement, donc un livre de critique sur l'œuvre de Céline. Mais est-ce qu'on peut faire de Poétique de Céline d'Henri Godard une recommandation de lecture? Je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, c'est très intéressant et passionnant pour voir comment on peut travailler une matière biographique. Mais je sais pas si j'irai jusqu'à en faire une recommandation de lecture. Non, ma vraie recommandation de lecture, ça serait Knausgård, au pire, au risque ouais. d'être de m'inscrire dans un courant international, mais c'est ce que je suis en train de lire et ce qui me marque en ce moment.
Bon, bah écoute, Alexis, David-Marie, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode des lectures confinées, des entretiens confinés des éditions Forges de Vulcain à la faveur du confinement. C'était David Melman, je te dis à très bientôt et je te remercie encore.
Au revoir et à bientôt.
À bientôt.